mardi 14 février, en ce jour de Saint-Valentin. Bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous, qui est accompagnée de Jean-Pierre Gay. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Julie.
Oups, ton micro vient de tomber.
Oui.
Tu es ici aujourd'hui, tu vas nous parler un peu du mois multi un peu plus tard.
Oui, bien sûr, parce que c'est un secret bien gardé, je pense, à Québec. Trop gardé, je pense.
Donc, on aura l'occasion d'en reparler également dans l'émission. On discute avec Michel Labbé, qui vient tout juste dont l'exposition Oxymore vient tout juste de débuter à la galerie Lacerte. Anouk Deloge viendra nous parler de l'exposition Loop du collectif de l'établi qui est présenté jusqu'au 25 février. Et aujourd'hui, on refait un peu la formule de l'émission, c'est-à-dire que Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse en deuxième partie d'émission. Également, il y a quelques magazines d'art visuel qui sont sortis dernièrement. Je vais faire un tour assez bref et rapide, mais avant tout ça, j'accueille comme à chaque semaine Simon Roy. Bonjour Simon.
Oui.
Nous as-tu fait une sélection musicale de Saint-Valentin ou t'as fait fi de cette fête commerciale?
Ah, oh, ben, les auditeurs pourront voir s'ils apprécient ça pour la Saint-Valentin. Moi, je me disais que c'était une sélection musicale pour faciliter la lecture, on va dire. Musique ambiante, musique drone, donc un artiste assez intéressant. Par contre, Julie, je suis dans un taxi en ce moment, j'ai pas mes notes. Donc, tout ce que je peux dire sur ce qu'on va écouter, c'est que l'artiste s'appelle Eugene K, puis c'est son album Esperon. Tout le reste, j'ai pas accès à mes notes, donc on va laisser le plaisir aux auditeurs de découvrir l'album en l'écoutant.
Ben voilà, de toute façon, les liens se trouvent sur le site l'aérospatiale.wordpress.com, mais il n'y a rien de mieux que suivre ce lien-là pour avoir toutes les informations.
Exactement, tout est là.
Ben voilà, ben Simon, écoute, je te souhaite une bonne course de taxi et nous, ben on s'en met en oreille tout de suite, on écoute Far Away sur les ondes de CKRL. Voilà, on vient d'entendre, oui, j'invente des lettres dans les mots, entendre un extrait de Far Away, c'est tiré de l'album Sperum de Jeanne K, une suggestion de Simon Roy. Et on l'entend rire, donc c'est qu'il est déjà présent, Jean-Pierre Gay. Comment vas-tu?
Ah ben moi, ça va très bien. Moi, le mois de février, c'est mon mois.
Ouais, c'est
depuis 10 ans, c'est le mois multi, c'est cette espèce de rencontre. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est le secret qui est bien gardé, mal gardé, parce que c'est là où on fait les plus belles rencontres, c'est là où on fait les découvertes, c'est là où on est confronté à des choses auxquelles on n'est jamais habitué. Tous nos repères, souvent nos repères sont complètement démolis par ce qu'on... Pas démolis, mais détournés par ce qu'on voit là. C'est...
Des pratiques à l'avant-garde.
À l'avant-garde, c'est à la rencontre de toutes les disciplines. T'sais, on n'est pas dans la sculpture, on n'est pas dans l'installation, on est dans toutes sortes d'affaires en même temps. On est vraiment dans quelque chose qui est à l'avant-garde. Exemple, Kenji Wallet, j'en parle, c'est fini, mais c'est mon coup de cœur à venir jusqu'à date. On est deux personnes, deux spectateurs, avec deux artistes dans une petite salle. On a les yeux bandés, les yeux fermés. Et là, la musique part, et il y a un des deux artistes qui est avec nous.
Donc, une musique d'ambiance?
Une musique d'ambiance, okay. Puis, on a un artiste qui est avec soi, il est vraiment collé sur soi, tu as l'impression qu'il est là, tu l'entends respirer.
Ah ouais.
Et là, sur la musique qu'on entend, cet artiste-là parcourt notre corps avec des tapotements, des... On n'est pas dans le massage, on est dans l'espèce de... Notre corps devient comme une caisse de résonance, comme un petit tambour. Et il devient en même temps... Moi, l'impression que j'avais, c'est que je touchais le bruit, je sentais le bruit me toucher. Une expérience sensorielle extraordinaire que Kenji Wallet, que seul le bois multi peut nous offrir. C'est pour ça que je parle de Kenji Wallet. C'est le genre de patente qu'on ne peut retrouver qu'au bois multi. Puis il y en a plein, puis il y en a encore qui s'en viennent. Alors, moi, je veux parler du bois multi.
On est là pour ça, on écoute avec plaisir.
Écoute, le mois multi, il y a une bonne. On est à mi-chemin dans ce mois-là. Il y a déjà une série de spectacles qui ont eu lieu. Il va y en avoir d'autres cette semaine. Il va y avoir aussi trois nouvelles expositions, installations qui vont être mises en place à partir de demain, parce que c'est mercredi que ça commence. Je vais revenir là-dessus.
Oui, parce que plutôt que de parler des installations qu'il y a déjà, ça va faire un tour.
Mais je veux juste dire que c'est gratuit. Ces expositions-là, c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est dans le complexe Méduse. Donc, il faut juste rentrer là et aller voir ça. Mais il y a quelque chose qui est nouveau cette année. C'est la première fois, première édition, dans le cadre du bois multi. On est en plein hiver. Et ils organisent des nuits numériques à l'extérieur de Méduse. La Méduse va s'illuminer littéralement vendredi et samedi prochain. Ça va commencer un petit peu avant la bande vidéo, là, mais mettons que vendredi et samedi prochain de 19h à tard là, jusqu'à minuit, 1h, Méduse va être illuminée. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer là. Ça va commencer dans les vitrines d'Engram, au pied de la côte d'Abraham. On est dans les vitrines d'Engram. Et là, il y a un artiste, là, je ne donnerai pas les noms.
Puis non, ça,
il va se passer des projections dans lesquelles nous, comme citoyens, comme citoyennes qui sommes sur la rue, on va avoir été comme filmés par une caméra cachée. Et nos ombres vont se reproduire dans cette forêt-là qui est créée dans les vitrines d'Engram. Donc, il y a ça qui va se passer. Là, on monte tranquillement, on arrive à mi-chemin dans Méduse, là où étaient ces Coyillots auparavant, notre autre réseau communautaire.
Donc, en remontant sur la côte d'Abraham.
Encore là, dans les vitrines, il y a un artiste qui s'appelle Zol qui va faire des effets spéciaux aux couleurs extrêmement contrastantes dans ces vitrines-là. On continue, on remonte, et là, on arrive, on va prendre l'escalier qui descend vers la basse ville. Il y a une terrasse. Sur cette terrasse-là, il va y avoir une performance, il va y avoir encore là des effets spéciaux, des effets visuels d'un artiste dont j'oublie le nom. C'est pas la Forêt Bleue. C'est pas
je cherche aussi, Jean-Pierre, je suis
c'est
au courant de tous
Manuel
ces noms.
C'est Chantre, ça s'appelle Light Attraction, et lui va faire vraiment, comme on dit, éclater Méduse en lumière. Ça va être des lumières, je ne sais pas comment les autobus vont faire ou les voitures vont faire pour descendre de la côte, mais ça va être très lumineux. On poursuit et on descend la côte, on arrive sur la rue Saint-Vallier. Encore là, dans les vitrines de Méduse sur la rue Saint-Vallier, il va y avoir projection d'antitubes, de films vidéo, de courts films vidéo de 1, 2, 3 minutes qui vont être projetés, mais dans les vitrines encore. Là, on rentre à l'intérieur. Une fois rendu à l'intérieur,
on se réchauffe un peu. Là.
On se réchauffe.
Je pense qu'il va y avoir du vin chaud hein, d'ailleurs
petit,
là, pour s'aider.
Il y a un petit bar, il y a un coup de fait là-dessus. Là, il prévoit tout, les gens du mois multi. Dans une salle, il va y avoir une installation d'étincelles lumineuses. Je ne peux pas vous en parler parce que ça, ce que je sais, c'est que c'est pris au plafond. Puis que ça va se répercuter partout dans la salle.
Une espèce de performance qui utilise l'étincelle comme source de lumière
comme
et de son.
Comme source de lumière. Donc, ça va être à la fois sonore, à la fois lumineux, à la fois spectaculaire, à la fois déroutant. Donc, dans une des deux salles à l'intérieur. Et pour finir toute cette soirée-là, il y a un cabaret audio avec Zol, qui est un artiste audio français, qui, lui, à 23 heures, va faire un cabaret audio un peu dans l'inspiration de la musique noise. On ne sera pas dans les chansons de Ginette Renault, là, mais on
l'espère.
Donc, une belle soirée. C'est la première fois et tout ce dont je viens de vous parler, c'est gratuit. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ça, c'est une soirée là, unique qui est ouverte à tout le monde. Moi, je pense que c'est une belle occasion pour les gens de venir découvrir ce qu'est Méduse, ce qu'est ce lieu un peu bizarre qu'on croise dans la Côte d'Abraham. Moi, mon premier contact avec Méduse, je l'ai fait grâce au Moi Multi en 2001. J'étais allé voir ce qui se passait dans cette place-là. J'étais un petit peu intrigué.
Cet amalgame de blocs hétéroclites.
Je comprenais pas trop ce qui se passait là. Puis j'osais pas trop y aller. Mais j'avais vu ça, cette programmation-là, puis j'étais allé voir ça, puis ça a été mon premier contact réel avec les gens de Méduse. Puis je me suis rendu compte que oui, c'est du monde fou, c'est du monde flayé, mais c'est du monde comme toi et moi, tu sais, qui sont ouverts, qui sont allumés, puis qui ont le goût de voir d'autres choses dans la vie, là.
Puis là, mais c'est vraiment l'occasion, vendredi soir et samedi soir aussi, là.
Oui.
On n'a pas le prétexte de travailler le lendemain. Puis en plus, il y a du vin pour aller. On peut rentrer à l'intérieur.
Oui, il y a du vin, c'est gratuit. C'est une piste. Et il y a aussi, si on va sur le site Moi Multi, M-O-I-S comme le moi, multi.org, toute l'information est là. Même les spectacles, là, c'est pas cher, c'est entre 12 et 20 $ le prix des spectacles. Là, c'est moins cher qu'au Petit Champlain pour Grand Théâtre.
Oui, effectivement.
C'est, il faut, puis moi je dis, dans le fond, le meilleur moyen de rentrer là, c'est qu'on s'en va sur la rue Saint-Vallier, puis on, juste en arrière de Méduse, là, puis on rentre là, puis il y a toujours quelqu'un pour nous accueillir, pour nous expliquer ce qui va se passer dans ce soir-là.
Oui, dans le hall de Méduse, juste à côté de l'escalier.
À côté de l'escalier, et là, les gens vont nous expliquer tout ce qui a à se passer, puis comment s'y rendre, parce qu'il y a toujours un petit peu ce problème-là dans Méduse.
Le labyrinthe.
L'espèce de labyrinthe. Mais c'est un labyrinthe qui mérite qu'on s'y perde, puis qu'on va en sortir, inquiétez-vous pas.
Puis Jean-Pierre, nous, on se voit la semaine prochaine ou l'autre?
La semaine prochaine.
La semaine prochaine, voilà.
La semaine prochaine, parce qu'il va y avoir 5 expositions qui vont être en place. Puis il y en a une qui est vraiment rigolote, là, que j'ai vue. Moi, j'ai été comparé à un lutteur de sumo.
Oh.
Alors, j'ai la moitié du poids d'un lutteur de sumo. Je t'expliquerai comment ça se fait.
Voilà, donc on se revoit la semaine prochaine, puis oui. On peut aussi écouter ton émission les dimanches.
La croche-oreille à 11h le dimanche soir.
Que tu co-animes avec Myriam.
Avec Myriam Lambert, on est des jeunes avatars, on reçoit des gens en art audio. Ça aussi, c'est assez flayé, mais je pense qu'on réussit à démystifier un peu ce type d'art-là.
Ben voilà, Jean-Pierre Gay, merci beaucoup.
Ben, ça fait plaisir.
On s'en va en pause audio, on écoute Autumnal City. Au retour, on discute avec Michel Labbé. accompagné de Julie Gagné à l'animation et de Jacques Gignac à la mise en onde. Et on vient d'être rejoint par Michel Labbé qui nous propose l'exposition Oxymore à la Galerie Lacerte. Bonjour.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien, oui.
Et ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu à Québec, quand vous me disiez que ça faisait une dizaine d'années là, que vous n'aviez pas
exposé. Voilà, même ça fait presque une douzaine d'années que j'ai... la dernière exposition a eu lieu, en tout cas en 2000. Ça va peut-être sembler prétentieux, mais ça se passait au Japon. Donc, depuis, au même moment, je prenais ma retraite comme professeur à l'Université Laval. Donc, c'était ma dernière exposition à ce moment-là. Le travail a continué chez moi, disons, plus calmement.
Oui.
Et à un moment donné, je me suis réveillé, disons.
Vous êtes sorti
et je me suis
dit, bagnage.
Voilà, exactement. Et je me suis dit, bon, il faudrait que je sois responsable par rapport à ce que j'ai fait. Et donc je présente Oxymore et j'espère que ce sera, pour citer un oxymore, j'espère que ce sera un silence éloquent.
Ah, ben voilà. Mais juste une parenthèse aussi, là, vous allez exposer à la fin du mois à la maison.
Oui, à la maison Albert Bruno, on présente une exposition qui va s'intituler Stravaganza, trois artistes en symbiose, avec Lucienne Cornet, Entre la liberté et moi. L'exposition commence le 29 février et je pense que ce sera aussi très bien.
Voilà, donc on se rattrape pour tout ce temps perdu.
Voilà, tout à fait, exactement.
L'exposition s'appelle Oxymore. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu à vous en regardant votre travail ou c'est un concept sur lequel vous vouliez travailler à la base?
Accidentellement, je suis tombé sur ce mot qui m'a fasciné et dans sa description, dans sa définition, ça m'a plu énormément. Et comme j'étais en période de travail et comme je sais fort bien la façon dont je travaille, j'ai constaté que c'était un mot qui définissait parfaitement l'état dans lequel je me trouve quand ce travail se réalise, parce que même si ce n'est que pour l'application d'une couleur sur une surface, ben déjà à partir du moment où on applique cette couleur, on cherche à la fois son contraste ou son opposé
Mais
ou
ouais.
sa profondeur pour mettre en relief les choses ou pour leur donner
pour faire émerger un sens ou une réflexion,
pour faire émerger un sens ou pour faire émerger un chaos aussi, peu importe, mais on se questionne et donc ces questions-là amènent parfois et même très souvent les opposés. Et bon, donc l'oxymore étant une expression langagière qui véhicule des opposés, simplement le terme clair-obscur est un oxymore.
Oui.
Je ne sais pas, moi je vous disais tout à l'heure, un silence éloquent, c'est un oxymore. Le lourd silence, c'est un oxymore. Hâte-toi lentement. Donc ça correspondait tout à fait à, en tout cas pour résumer la picturalité dans le. Qui m'intéresse, ça définissait fort bien le travail.
Vous travaillez beaucoup justement par contraste de couleurs. Hein? Quand on regarde vos œuvres, c'est des couleurs très éclatantes qui sont juxtaposées, même superposées aussi. Là.
Superposées, grattées, biffées, raturées, et je recommence. Enfin, c'est ça. Donc, finalement, à un moment donné, j'arrive définitivement à une espèce d'état un peu chaotique dans cet espace-là. Et naturellement, c'est cette situation qui m'intéresse parce que ce chaos qui peut être et ressembler à la vie, en fait, il faut quand même lui donner un ordre, il faut quand même lui donner une structure pour le rendre acceptable, en
Mais
fait.
Ouais.
Donc, tout comme on se crée des paramètres que nous aurons éventuellement à dépasser, en fait, comme certaines règles dans la vie que parfois on se permet d'outrepasser. Donc, En fait, pour moi, naturellement, c'était tout à fait un reflet de la vie, même si ça n'a aucun lien ou aucun rapport avec la représentation.
Mais non, parce que là, on est quand même dans l'abstrait, là.
Oui, on est dans l'abstrait, mais dans un abstrait où les questionnements ont tout à fait rapport à la réalité.
Ben oui, je disais, justement, il y a un catalogue que la CEP
a
publié pour votre exposition, puis dans le catalogue, ça disait que vous cherchiez un peu à traduire la beauté époustouflante de paysages que vous avez eu l'occasion de voir, voyager beaucoup aussi.
C'est-à-dire, c'est des choses qui m'influencent énormément. Premièrement, j'aime beaucoup voyager, j'aime observer les situations dans lesquelles je me retrouve, en fin de compte, géographiquement, la culture. cultures, les coloris de chaque civilisation.
Oui, ça change.
Mais même la nature, en fin de compte, les arbres, l'écorce, les mouvements de l'eau, en fait, tout ça, ce sont des choses qui m'intéressent et qui m'influencent, mais je ne les traduis pas en les représentant. Je m'en inspire, je me laisse influencer, en fin de compte, par ces... Donc, c'est une résurgence de tout ça, quelque part.
Il y a beaucoup de mouvements. Vous parlez de résurgence de nature. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de mouvements à travers des diagonales en courbe qui vont... Une va dans un sens, l'autre va dans le sens opposé. Oui. J'imagine que l'oxymore, elle est là aussi, là, dans ces directions-là.
Ah oui, tout à fait, exactement, parce qu'on sent parfois qu'une direction coloré, si je veux dire, se frappe à une limite d'un tableau pour, dans un autre, dépasser cette limite, mais à aussi prendre une autre direction, passer en dessous, passer par-dessus. Voilà, alors c'est ça. Oui, c'est cette dynamique qui m'intéresse. Ce sont ces oppositions qui m'intéressent parce qu'elles ont rapport au questionnement qui se rapproche de la vie, en fait, oui.
Puis, dans plusieurs œuvres, là, je ne me rappelle pas exactement tous les titres, mais vous mettez ensemble des plus petits... c'est des œuvres composées de plus petites œuvres, de polyptiques, en fait.
Oui.
Puis, il y en a, je pense que c'est dans Cohabitation, je ne suis pas certaine, où vous travaillez à la fois la peinture et l'impression numérique.
Oui, exactement. Ben, ça, c'était une façon de voyager tout en n'ayant pas à transporter des formats spectaculaires et lourds, en fin de compte. Donc, j'avais décidé de travailler sur des acétates, sur lesquels j'avais agrandi, ni plus ni moins. Soit des dessins en noir et blanc ou inversés. C'était une impression numérique, mais une impression numérique dans laquelle le pixel est très grosse.
Oui,
donc, ce n'est pas une image très intéressante, mais disons que ça me permettait d'avoir la première tâche, le premier geste, la première excuse pour travailler, pour déconstruire ou reconstruire.
Un peu comme le vieux mur de Léonard de Vinci, finalement.
Oui, tout à fait. Belle comparaison, tiens.
je suis retombée dernièrement sur le vieux mur de Léonard de Vinci, puis comment Bordias en était influencé.
Inspiré,
pour l'automatique, c'est pour ça.
Oui, tout à fait, oui.
Mais j'imagine travailler là-dessus ou encore travailler sur le foam core, parce que la plupart de vos œuvres sont sur foam core.
Oui, sont sur foam core, oui.
C'est différent là, de travailler sur une toile. Qu'est-ce qui vous amène justement à choisir ces types de supports-là qui sont lisses ou la peinture?
C'est que la réponse est différente, oui. L'effet parfois est différent aussi, la surface a une qualité autre, mais il m'arrive encore de travailler sur toile. Vous allez voir d'ailleurs à Amel Bruno, il y a une ou deux pièces qui sont sur toile. En ce qui concerne l'image en soi, là où on arrive une fois qu'on pense avoir résolu l'espace pictural, en fin de compte, est le même. Les résultats se ressemblent, mais c'est vrai que la surface répond différemment, en fin de compte, au médium.
Puis, pendant que vous parlez de surface qui répond différemment, je pense à celle au fond, j'ai encore oublié le titre, où vous présentez quatre peintures dans des cadres, mais au lieu de mettre, parce que ça m'a frappé, en fait, au lieu de mettre les œuvres à l'intérieur des cadres, derrière la vitre, vous les mettez sur la vitre. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? La lumière qui arrive de derrière?
Non, d'une part, c'est certain que s'il y a une vitre par-dessus, c'est-à-dire que si cette surface-là est derrière la vitre ou le plexiglas, bien, il y aura des reflets.
Oui, c'est ça.
Il y aura des reflets. Mais d'autre part, j'avais choisi de les mettre sur la surface du plexiglas parce que je considérais qu'il y avait des caractéristiques à la peinture, au médium, qu'on perdrait si c'était derrière le verre. Un peu comme si on pourrait presque avoir envie de toucher, parce que tout à coup, on sent que la peinture est plus épaisse à certains endroits, ou plus mate, ou plus lustrée. Donc, pour conserver ces choses-là, j'ai préféré appliquer en fait ces surfaces, ces pellicules sur le plexiglas.
Voilà. Donc, mais la peinture est très résistante quand même. Donc, elle est toutefois protégée parce que ce ne sont quand même pas des pastels. Donc, ça n'a pas cette fragilité. Là, on parle d'acrylique. Voilà.
Puis, en fait, il y a une chose aussi qui m'a frappée dans votre travail. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de couleurs, mais au-delà de tout ça, votre travail, c'est le point, la ligne et la couleur. Vous avez vraiment réduit comme la peinture, malgré cette abondance qu'on voit, son plus strict vocabulaire. Là.
Mais à la base. Je pense que c'est toujours là, hein, les directions. Donc la ligne, ni plus ni moins, elle peut peut-être s'épaissir, elle peut peut-être s'élargir, mais quand même, ça demeure une ligne. Le point aussi, hein, il va quelque part jusqu'à la tâche, et ainsi de suite. Je pense que ce vocabulaire de base peut demeurer, peut être exploité de différentes façons. Donc, j'imagine que je l'ai.
Ça que c'était donc pas nécessairement volontaire de réduire au vocabulaire essentiel. Des fois, on regarde des œuvres, on se perd dans nos choses. On va avec nos référents. Peut-être en terminant, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de ce que vous allez présenter à la maison Amel Bruno, parce que ça commence quoi, le 28, le 29?
C'est-à-dire, le vernissage a lieu le 28, c'est un 5 à 7, c'est un mardi soir. Maison Amel Bruno, le projet au départ était, c'est toujours le projet de mettre en interaction, en fait, nos œuvres de Lucienne, d'André La Liberté et moi-même.
OK, donc ça ne sera pas dans des pièces séparées.
Oui, donc c'est ça, on a des pièces, c'est une maison, donc il y a différents salons. Il y a une pièce dominante où se trouve chacun des artistes, disons, donc la majorité de ses œuvres, mais on est tous un peu éparpillés, par contre, dans la pièce. Alors, ça veut dire qu'à certains endroits, moi, j'y présente à la fois des tableaux et des sculptures, de même Lucienne et André. Donc, parfois, une de mes sculptures est en interaction avec un tableau de Lucienne et vice-versa. Ce qui veut dire que ça crée un parcours très intéressant, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a deux commissaires, dont Daniel Lessard et Sylvie Alice Royer, qui a écrit un texte. Daniel Lessard qui s'est occupé du design de l'exposition et Sylvie Alice Royer qui a surtout écrit sur les pièces. Elle nous raconte une merveilleuse histoire. C'est une approche sur l'art que j'ai, en fait, quand jamais approchée. Et c'est très intéressant. Donc, on a cette merveilleuse histoire qui nous ouvre les portes, en fin de compte, de l'exposition, qui nous permet un très beau parcours dans l'exposition. Et surtout, comme l'exposition est déjà montée, je l'ai vue.
Ah, bon.
Donc, c'est pas mal du tout. Voilà.
Excellent. Donc, le vernissage, le 28 février.
Le 28 février, 5 à 7. Et l'exposition, officiellement, ouvre le 29 février et va jusqu'au 8 avril.
Donc, on a en masse le temps d'aller la voir. Et d'ici là, on va chez la SEFT quand même pour aller voir Oxymore.
J'espère bien, oui.
Michel Labbé, merci beaucoup.
Merci, Julie.
On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Anouk Deloge.
Vous êtes gestionnaire, travailleur autonome ou employé et désirez vous perfectionner? Michel Couture, formation et consultation incorporée, offre des formations dans la région de Québec dans différents domaines. Gestion du capital humain, service à la clientèle, vente et approvisionnement, communication, performance organisationnelle. Informez-vous également sur les formations en entreprise sur mesure et sur le coaching privé ou semi-privé. Pour connaître l'horaire des formations, mcformcoach.com. Contactez votre centre local d'emploi afin de savoir si vous êtes éligible à une subvention. mcformcoach.com.
Programmation, écoute en direct. Actualité, palmarès musical, téléchargement, clavardage et plus encore. CKRL.qc.ca. Toute l'information que vous recherchez sur votre station. CKRL.qc.ca. Cultivez vos goûts grâce au 89.
CKRL 89.
Pourquoi que le monde m'écoute? Parce que je veux des marques de ceux qui prient, moins qui parlent, mais qui disent rien, des bagues, puis des billets de dans ma lettre, trash talk.
Québec, les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par G. Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Cette soirée est une présentation du Bas du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
Il est 18h précisément, on entame la dernière demi-heure de l'aérospatiale en cette journée de Saint-Valentin. Alors voilà, je vous le dis, je vous aime, chers auditeurs. C'est dit. Je suis toujours accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde et Anouk Desloges, toute souriante, vient de nous rejoindre. Bonjour Anouk.
Bonsoir Jacques, bonsoir Julie.
Comment vas-tu?
Très, très heureuse d'avoir entendu parler de la Saint-Valentin. J'imaginais qu'on allait en glisser un mot.
Ben quand même, tu sais, on n'ira pas jusqu'à parler de rose et de couleur.
Non, mais l'amour, c'est le cas. L'amour, c'est bien. On peut en parler. Voilà.
Et là, Anouk, cette semaine, tu n'es pas là pour une entrevue, tu es là pour une chronique.
Exactement. Je vous parle de l'établi, l'exposition Loop. Alors, allons-y.
Oui.
Mais je vous parle de l'établi, premièrement. Je parle de eux parce que, justement, c'est eux le collectif. Donc, l'établi, on se rappelle, a ouvert en janvier 2010. C'est un regroupement de 7 artistes qui œuvrent dans le domaine élargi de la photographie ou en art médiatique. C'est une place où est-ce qu'ils offrent des services selon l'offre et la demande, photographie, infographie, puis organisent aussi des événements, kinomada, etc. Mais avant tout, les 7 artistes sont des créateurs, comme on le dit. Alors, après les expositions Brownie et Sexy Polaroid, le collectif de l'établi nous propose leur 3e projet d'exposition intitulé Loop. Cette année, il y aura Elia, Hélène Bouffard, Stéphane Bourgeois, Étienne Dionne, Pierre-Marc Laliberté, Julie Lambert et Yannick Nolin qui font partie de cette exposition-là.
Est-ce que ce sont tous les membres de l'établi
non,
du collectif?
Non,
c'est
non,
ça,
hein, exactement. Mais pas beaucoup, là, un ou deux. Là.
Ouais, c'est bon.
Ouais. Qu'est-ce que c'est Loop? En fait, c'est bien un mot anglais. En français, on dit que c'est une boucle, un circuit continu. C'est donc une exposition qui regroupe diverses techniques et approches de l'image en boucle ou en continu. Je vais vous faire une simple définition pour chacun des procédés utilisés pour mettre les pendules à l'heure puis être à jour dans les techniques de looping. Hein. Puis je vous prie de m'excuser parce qu'on parle quand même, je vais essayer de vous définir des termes en photographie. Puis
ben ouais.
C'est quand même pas ma spécialité, mais c'est super intéressant. Donc,
t'es toute pardonnée d'avance, mais je suis certaine que ça va être très bien.
Merci beaucoup. Donc, je continue. C'est aussi dans cette exposition-là, c'est une exposition avec qui regroupe, comme j'ai dit, photographes et des vidéastes. Donc, des fois, les photographes se prennent pour des vidéastes et vice-versa.
Ah
donc,
ouais,
c'est assez intéressant.
On fait les jeux de rôle.
Oui. Quand on arrive à l'établi, quand on monte, on a un mur que j'appelle le portrait de famille. Donc, il y a une chaîne de photos qui est alignée au mur qui représente, ben pas qui représente, mais que c'est un type cadavre exquis. Cadavre exquis, on se rappelle, il y a le jeu, on écrit une phrase, on cache la moitié de la phrase, on le prête à quelqu'un d'autre qui écrit une autre phrase. On peut aussi faire ça avec des images. C'est une technique qui a été inventée.
De laisser dépasser comme un bout de ligne puis l'autre personne en fait ce
exactement,
qu'il veut, par exemple.
Oui. C'était une idée des surréalistes. Donc, en gros, ça donne quelque chose de surréaliste. Donc, il y a plusieurs grandes photos. On voit au début une ligne jaune qui se transforme en hublot, qui se transforme en genre de banc, en ceux qui se transforment en bateau, qui se transforme encore à une couverture qui est tenue par une femme à bout de bras. Donc, c'est quelque chose qui pourrait aller à l'infini, comme un loup, justement. Et puis ensuite, quand on continue dans l'exposition, on a un autre petit stand, comme je pourrais dire en bon français, de flipbook qui pendent du plafond. Le flipbook, c'est un petit livret qui regroupe une série d'images qui, d'une page à l'autre, varie graduellement. Donc, quand on les feuillette rapidement, ben il y a une impression de mouvement qui se transforme.
Oui, un peu comme on avait ça là, quand on était jeune.
Oui.
Ça donnait l'impression d'avoir un petit bonhomme animé.
Exactement.
Là, sur des livres. Là.
Oui, exactement. Là, eux, ils mettent des photos ou des dessins. Donc, on a vraiment, par exemple, on a des mains qui font clap, 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 un gars qui achoume. Tu sais, c'est très ludique.
Ouais.
On s'amuse là, à cette exposition-là.
J'imagine qu'on sent qu'ils ont eu du plaisir à faire
absolument.
Ça aussi.
Oui, ça faisait partie de ma conclusion.
Ah ouais, bon. Ça devance.
Non, c'est une oui. Puis ensuite, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est on trouve quelques écrans, puis ils font une démonstration de ce qu'est le cinémagraphe. Le cinémagraphe, c'est une application iPhone qui est dans le vent, on le dit. C'est une technique qui fige une séquence vidéo tout en laissant une partie qui est animée. Donc, c'est pas une photo, c'est ni une vidéo, mais c'est un assemblage des deux. Puis, à ce qu'on dit, ça serait une technique qui a été popularisée par des photographes de mode qui utilisaient l'image. Par exemple, il prenait un mannequin et puis ses vêtements bougeaient. Donc, mais l'image du mannequin était fixe avec le regard poignant. Donc, dans le cas de l'établi, on voit justement une séquence réalisée par Hélène Bouffard d'un homme qui regarde intensément l'objectif de la caméra, mais son capuchon en fourrure qui bouge. Mais tout le reste est vraiment fixe.
Okay.
On voit aussi une autre image. C'est Stéphane Bourgeois, cette fois-ci. C'est une femme qui est assise, puis elle regarde son feu de Bengale. Elle prend ses mains. Bien, entre ses mains, on se comprend. Puis devant le feu, par contre, il n'y a rien qui bouge, mais au mur, on voit les ombres de sa main sur le mur de pierre. Ensuite, on voit des gens qui traversent la rue, mais la seule chose qui change, c'est le chrono piéton en rouge avec la main rouge qui clignote. Donc, c'est vraiment une technique qu'ils ont appris ensemble et qu'ils sont amusés à faire ensemble.
C'est ça, ça pique la curiosité, en fait. J'ai que vous avez essayé de ça.
Ah oui, application iPhone. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la vitesse n'est pas ajustée à la réalité. Donc, le feu, quand on voit, il y a des images avec le feu, c'est très, très vite. Les voitures sont super vite. Donc, déjà que la moitié de l'image est un peu surréaliste, bien, tout ça fait en sorte que la vitesse, puis là, l'image, il y en a qui est fixe, ça bouge. C'est un peu étrange, là, mais c'est super intéressant. Donc, ça. Ensuite, on continue. On retrouve les GIFs animés. Ah non, ça fait encore partie de ce qu'on voit sur les écrans. Les GIFs animés, c'est des petites animations obtenues par succession de plusieurs images, le tout contenu dans un seul fichier compressé GIF. C'est fait pour Internet seulement.
Oui, ça, c'est les images. Là, ça courait là, dans le temps qu'on était sur MSN. Là, il y avait plein
oui,
de petits
ça.
Bonhommes là, animés,
ouais,
des photos, puis bon, des choses avec la classe ou moins de classe.
Ben oui, on fait des tranches de bacon qui écrivent Francis Bacon, Francis Bacon, Francis Bacon, Francis Bacon.
Bacon, qui écrit Francis Bacon.
Sans arrêt, c'est super. Donc, ça, c'est un autre, on connaît le principe, mais ils font ça tout en s'amusant encore avec Ensuite, l'œuvre principale, c'est bien sûr un mur grand complet avec avec le Lomo. Le Lomo est avant tout une marque, mais depuis les années 80, l'appareil ne cesse d'avoir des adeptes à sa collection. La lomographie, c'est tout un monde. C'est vraiment une philosophie là, qui est distincte au Lomo. Il y a des accessoires à n'en plus finir. Il y a des fan clubs de Lomo. Il y a tout un mouvement sur l'attitude Lomo et les règles à respecter. Si on a le temps, je vais vous dire les
Lomo,
règles.
Lomo, mon Dieu, je suis vraiment...
Donc, les images obtenues avec l'appareil argentique et non numérique en question sont pas de très bonne qualité, mais comme on dit, les lomophanes revendiquent l'utilisation de ces défauts affirmant se libérer de tout canon photographique. Ça fait partie de leur philosophie. Puis c'est des caméras, bref, qui, grosso modo, prend plus d'une photo par clic, une après l'autre. Donc, avec un bouton ou déclencheur ou manivelle, il y a une suite d'images qui s'alignent sur la pellicule. Ils peuvent être une à côté de l'autre, une par-dessus l'autre. C'est vraiment la pellicule est faite comme ça. Donc, quand on imprime, on voit ces images-là alignées ensemble.
Okay. Hein.
Puis, on a aussi une section dans l'exposition avec la planche lumineuse, avec quelques pellicules, là, si vous voulez qu'on comprenne vraiment bien. Là, c'est un peu éducatif, cette partie-là, qu'on comprenne ce que c'est. Donc, à l'établi, il y a une quinzaine de clichés qui sont au mur, aléatoirement. On voit des paysages, des morceaux de la ville, des rues, des brides architecturales. Bref, il y a une poignée de choses qui fait partie de notre quotidien qu'on voit là. Ce qui est intéressant dans cette portion d'exposition, c'est de voir les différentes manières d'aborder l'image selon les différents métiers et membres du collectif, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, Pierre-Marc La Liberté, qui est caméraman, photographe aussi, mais aborde son image comme un panorama étiré. On voit un immeuble, puis en descendant, chaque image dévoile la suite. La voiture, c'est comme un panorama qu'on fait avec un caméra numérique ou qu'on l'aligne, mais la caméra le fait avec tout un décalage, quelque chose d'un peu étrange. Donc, ça étire l'image, on a l'impression que c'est, vu qu'il y a une voiture en mouvement, on a l'impression que c'est une scène de film, finalement.
Okay.
C'est une photo, mais on a l'impression de
regarder... Comme une capture sur image, en même
temps.
Oui,
on ne sait pas, tu sais, il y a quelque chose de bien particulier à ça. C'est une action qui est décomposée. Puis d'autres images qui est tout le temps un peu différent. C'est vraiment variation sur le thème. Bien, tout de cette exposition-là, c'est des variations, des expérimentations.
Tous les artistes, finalement, ont travaillé sur chacun des thèmes.
Oui, exactement. Oui, exactement. Donc, après, on voit un mur avec une fenêtre, mais quand le clic a déclenché, puis il y a eu, par exemple, huit photos qui ont été prises, bien, on a bougé grossièrement, on dirait que ça bouge, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est vraiment super intéressant. Ce que j'ai trouvé dans cette exposition-là, bien sûr, Hélène Bouffard, celle qui m'a fait la belle présentation, elle m'a dit, c'est vraiment une exploration, là. Puis on travaillait ensemble, il n'y a aucun nom il y a un nom du collectif, mais c'est anonyme, là. On voit qu'ils se sont amusés, il y a c'est de l'expérimentation, puis... C'est aussi des gens qui, comme je disais, qui offrent des services, ben pas qui offrent des services des créateurs là, avant tout, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment appris et ça va les influencer dans leur démarche, dans leur pratique. Puis c'est vraiment, mais c'est intéressant de voir tout ça en plus, là, ce qui est l'infini puis ce qui tourne en rond. Puis là, j'aimerais ça prendre 30 secondes.
Ben oui, vas-y, Anna, on veut les entendre, les règles de la lomographie.
La lomographie. Donc,
Lomo,
les 10 règles d'or pour les lomographes. 1. Emporte ton Lomo où que tu ailles. Utilise-le à n'importe quel moment, jour et nuit. La lomographie ne fait pas intrusion dans ta vie, elle en fait partie.
Oh.
Essaie la prise de vue sans visée. Approche-toi de plus près des objets que tu veux lomographier. Ne pense pas, sois rapide. Tu n'as pas à savoir à l'avance ce que tu prends en photo. Après coup non plus. Et moque-toi des règles.
Oh, donc, un petit pied de nez. Là.
Donc, vous pouvez faire partie des Lomo fans. Mais avant tout, avant d'être fan, allez voir à l'établi qui est présenté du 10 au 25 février au 265 Saint-Vallier. Pour en savoir plus, c'est super ludique comme exposition.
Anouk Deloge, merci beaucoup. On se revoit dans environ un mois. De notre côté, on s'en va en pause en écoute Spéroum sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait de la pièce Spéroum. C'est tiré de l'album du même nom de l'artiste Eugène K. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Il y a tous les liens pour télécharger la musique. Également, il y aura les liens pour la revue de presse que Raymond Poirier s'apprête à nous faire en fin d'émission cette semaine. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Ça va un peu moins bien du côté de Montréal. Par contre, Musée d'art contemporain de Montréal qui a eu des mauvaises nouvelles dans les derniers jours. Et d'ailleurs, en fait, les médias sociaux ont largement diffusé un petit éditorial. Y a-t-il un mécène dans la salle avec un point d'interrogation? On avait parlé, il y a de ça un certain temps,
jadis, d'un
projet d'aménagement, d'un projet d'agrandissement du côté du Musée d'art contemporain de Montréal. On disait, regardez, on n'a pas assez d'espace, on manque de place, on manque d'accessibilité, il faut bonifier tout ça. Et c'était un projet de 92 millions de dollars. Et sur les 92 millions, ben, il demandait à l'État d'aller subventionner 88 millions de dollars. Et la ministre Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, a dit, regardez, oui, on comprend qu'il vous faut un agrandissement, oui, on conçoit que vous manquez d'espace, mais non, on ne vous donnera pas ce montant-là. Elle estime que c'est beaucoup trop coûteux et qu'il faut justement qu'à l'image du Musée national des beaux-arts du Québec, qu'il y ait beaucoup plus de partenaires privés,
plus de mécènes,
plus de mécènes, dans le fond, qui investissent dans l'art. Et donc, la question, c'est de voir si, justement, il y a des gens, des investisseurs privés qui sont prêts à donner des sous dans le cadre d'un projet comme ça dans la métropole. On a vu que ça a bien marché à Québec. Alors, est-ce qu'il y aura un projet aussi stimulant qui sera présenté et des partenaires aussi motivés aussi qui se rallieront autour de cette initiative-là parce que c'est clairement la prochaine étape?
Bien, espérons-le. Espérons-le, parce qu'ici à Québec, ça semble avoir bien fonctionné. Donc,
Oui, et en fait, moi, ça me sidère toujours à chaque fois qu'on me dit, regardez, on présente quoi, 10-20 % tout au plus de nos collections. Il y en a tellement qui sont stockés. Ouais. Alors, il faut rendre ça accessible pour que cet art-là vive, ne se perde pas. Ça devient nécessaire d'avoir plus d'espace pour avoir un peu plus de roulement d'œuvre, au bout du compte.
Mais oui.
Et quand on parle d'argent dans l'art, je trouve toujours ça intéressant de voir que d'un côté, on a des difficultés à trouver des mécènes, mais de l'autre, en fait, je suis tombé sur un bilan du marché de l'art 2011 qui est diffusé ça et là. Et
ce marché de l'art globalement international.
Et il y a de l'argent qui se brasse, c'est... imposant, c'est hallucinant, oui. Et ce, malgré la crise, parce qu'on aurait pu s'imaginer 2011, bon, ça va pas très, très bien dans l'économie internationale. Peut-être qu'il y aurait eu un ralentissement. On avait eu des signaux inverses. À chaque fois qu'on parlait du marché de l'art, ici à l'aérospatiale, ça semblait bien aller. Et effectivement, l'année a très, très bien été. On parle même d'un niveau inégalé qui a été atteint. Donc, 21% d'augmentation en 2011, malgré la crise, 11,54 milliards de dollars. Et c'est la Chine qui caracole en tête avec 41% de part de marché. Et ça va continuer à monter. Ce qui ressort beaucoup de ce bilan-là, c'est à quel point la Chine continue, année après année, de s'imposer dans le marché secondaire. En 2010, elle avait pris la tête. En 2011, elle conforte son avance. Et ce qu'on dit, c'est qu'en 2012, sa part de marché estimé risque de tourner autour des 54%.
Oh!
Donc, c'est énorme. Parallèlement, ce qui est intéressant aussi, c'est que les ventes de fine arts, donc peinture, installation, sculpture, dessin, estampes, photographie, ont dépassé le seuil des 10 milliards de dollars également. Alors, une croissance exceptionnelle qui ne s'est pas estompée, d'ailleurs, pendant l'année. Et les États-Unis, de leur côté, occupent toujours la seconde place, loin derrière la Chine, des ventes d'à peu près 3,57% de part de marché.
Alors qu'avant la Chine, je crois qu'il y avait la première place là, sur le marché international.
Exactement. Puis la Grande-Bretagne est troisième, à peu près 20% de part de marché. La France, ensuite, on tombe à 5% là, des parts.
Oh, hein?
L'Allemagne, un peu moins de 2%. Donc, c'est vraiment la Chine et l'Asie qui est en train de prendre le haut du pavé, si on peut dire, là, dans le marché de l'art. Et parallèlement, ce qui est intéressant, c'est que le marché de l'art canadien aussi tend à se développer. Il y a beaucoup de gens, en fait, du moins dans certaines analyses, qui disaient, au Canada, on est bloqué sur tout ce qui s'est fait avant la guerre et on n'achète pas ce qui s'est fait après la guerre.
Ouais.
Donc, les Emily Carr, les Tom Thompson et le reste, ça marche très fort dans le marché de l'art, mais le reste, il n'y avait pas encore vraiment d'espace, de place dans le marché pour des artistes contemporains. En fait, du moins, très peu de place. Et le Globe and Mail rapportait récemment qu'il y a une galerie de vente, en fait, donc un lieu de vente, un lieu d'enchère de l'art qui va être 100% consacré à l'art contemporain, qui va être lancé incessamment. Ça fait un peu écho, en 2008, il y avait FL Fine Art à Vancouver qui avait décidé de séparer ses ventes d'art contemporain d'art un peu plus ancien, donc première moitié, deuxième moitié, si on peut dire. Avec l'idée que les gens qui achètent de l'art contemporain un peu plus récent d'artistes qui sont toujours en vie, ce ne sont pas les mêmes acheteurs que ceux qui vont aller chercher des œuvres d'artistes un peu plus anciens. Ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même type de vente, ce n'est pas le même climat. Et donc, ils ont fait l'expérience de diviser les ventes et ça a bien fonctionné parce qu'avant, c'était simplement...
Mais les œuvres contemporaines ne devaient pas être mises en valeur.
Non, ils côtoyaient. On vendait un Emily Carr, puis après ça, on vendait une œuvre d'un artiste qui était toujours vivant, une œuvre de 83. Donc, c'était pas organisé. Et donc, eux ont décidé de faire ça. Ça a bien fonctionné. Ce qui fait que du côté de l'Ontario, il y aura donc une galerie qui sera 100% consacré donc à l'art contemporain. Ce serait intéressant de suivre, de voir un peu comment ça va se développer, parce que pour l'instant, au Canada, si les artistes contemporains n'ont pas beaucoup de place, reste que ça vend quand même, notamment en Europe. Là, une œuvre, par exemple, on parle de John Curran, qui ça coûte 5 millions de dollars, une peinture de 99, une œuvre de 99, alors que Emily Carr peut être vendue pour 2,5. Donc, il y a un jeu là-dessus. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le marché de l'art. Et sinon, deux petites dernières rapidement. Notamment, j'aime bien les projets d'exposition qui ont une extension numérique, et le MoMA a décidé de numériser, de diffuser en ligne les fresques de Diego Rivera. Ils font une exposition rétrospective sur lui présentement. Et donc, ils ont décidé de mettre 8 œuvres originales de l'artiste. C'est de la très haute définition, donc vous pouvez vraiment aller zoomer sur le
détail. Voir les craquelures.
Et en plus, ils ont décidé de faire plus que de simplement mettre les photos en ligne. Il y a des hotspots ciblés sur l'œuvre qui peuvent être développés avec des commentaires audio d'historiens de l'art, de la documentation. On documente également le passage à New York de Rivera, voir les lieux où il a été, ou les lieux qu'il a vus, ce qui aurait pu l'inspirer. Donc, vraiment, fait une ressource intégrée autour de ces murales-là. Donc, du côté du MoMA, le lien sera évidemment dans l'article,
en fait,
l'aérospatial.wordpress.com. Et parlant de liens, en terminant, puisqu'on parle de temps à autre de photos de presse ou de photojournalisme qui tendent de plus en plus aussi dans certaines démarches vers les arts visuels. Et il y a le WordPress Photo qui a couronné sa meilleure photo de presse de l'année. Et ça vaut la peine. J'ai été voir d'ailleurs les gagnants en général dans les différentes catégories. Les photos sont hallucinantes. On sent que c'est vraiment fait une démarche profondément humaine. Donc l'idée d'essayer de rendre le plus possible la réalité humaine et le côté poétique de certaines expériences. Et dans ce cas-ci, le cliché qui a gagné, c'est Samuel Aranda, un Espagnol. Ça avait été publié dans le New York Times en octobre 2011. C'est une femme portant le voile intégral qui tient dans ses bras un membre de sa famille blessé. Alors, un clash, côté costume, côté vêtements, situation qui est très réussie. Alors, encore là, le lien sera sur l'aérospatial.wordpress.com.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On t'écoute vendredi à La Vie en BD.
Oui, et notamment Magasin Général Jean-Louis Tripp sera avec nous.
Alors voilà, on s'en va en pause audio. On écoute Drone Fish sur les ondes de CKRL. D'entendre un extrait de la pièce Drone Fish tirée de l'album Sperum de Jenka. Comme je le disais en début d'émission, ou plus tard en émission également, je le dis à moult reprises, c'est disponible sur le site l'aérospatial.wordpress.com. Vous pourrez également écouter l'émission en balado-diffusion si vous en avez manqué un petit bout. En début d'émission, je vous disais que j'allais faire une tournée des magazines. On a jasé pas mal en cours d'émission. Il nous reste un petit peu moins de temps. Je vais garder cette tournée des 10 magazines, mais je vais quand même vous parler du nouveau Inter Art Actuel qui est sorti dernièrement, qui porte sur le langage langage plastique. Et ce qui est intéressant avec cette inter-là, comme ça porte sur le langage plastique, ils ont demandé à des artistes de présenter des expérimentations visuelles. Donc, c'est 20 artistes. On présente des images sur les images, donc sur les deux pages quand on ouvre le magazine. On présente également la démarche de ces artistes-là. Donc, pour se familiariser avec certains univers, en découvrir. Donc, parmi ces artistes-là, on pense à Christian Messier, Julie Andréthé, Mathieu Lévesque, Carlos Sainte-Marie, Francis Arguin, Marie-France Tremblay, etc. Donc, des qualités d'image qui sont quand même incroyables, qui nous font passer du rire au malaise à l'attendrissement. Également, dans ce numéro-là, il y a un texte de Louisanne Nadeau qui traite de la pratique installative de Jean-Marc Mathieu Lajoie. D'ailleurs, il faut dire que la première page du magazine est une image de, j'ai oublié le nom, de l'exposition de Mater Dolorosa qui était présentée au lieu en septembre. Également, Hélène Matt nous parle de sa pratique à elle du dessin. On voit quelques-unes de ses œuvres. Victoria Stanton, elle s'intéresse à la sculpture comme événement de Mathieu Valade. Puis c'est intéressant parce que Mathieu Valade s'en vient à la Galerie des Arts Visuels. Je crois que c'est la prochaine exposition là, qui débute la semaine prochaine. Puis aussi, un texte que j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Shadi Gadirian, donc une artiste musulmane. Je crois qu'elle est iranienne, si je ne me trompe pas. Sinon, elle est libanaise. Je vais vérifier. Je vous reviens sur cette information la semaine prochaine. Bref, elle qui traite de la photographie dans une dictature où c'est assez les droits des femmes sont assez restreints. Donc, comment réussir à faire de l'art contemporain dans ce contexte-là où elle fait de la photographie, les femmes doivent obligatoirement être représentées avec le voile. Donc, elle joue beaucoup avec les voiles de les voiles où on voit des objets qui remplacent le visage de la femme, etc. Donc, c'est un travail assez percutant. Donc, je voulais vous parler d'etc., je voulais vous parler de ciel variable. Je me garde l'opportunité de vous en parler ultérieurement, puisque cette semaine, il y a énormément de choses encore en art visuel. La semaine dernière, on était à la frontière, la fin des expositions. Le tout commence cette semaine. Jean-Pierre Gué vous a parlé des nuits numériques au mois multi qui auront lieu vendredi et samedi à compter de 19h, mais aussi mercredi prochain, vernissage des installations dans le hall de Méduse. Également, il y a la campagne Cube de la Chambre Blanche qui cherche à faire un pont entre, faire une médiation entre le monde des affaires et le monde des arts visuels qui présente son troisième 5 à 7 jeudi prochain. Donc, les invités sont, c'est certain, Takao Minami qui présente en ce moment son projet de résidence à la Chambre Blanche. Donc, il va présenter dans le cadre du 5 à 7 des projets vidéo qui comptent mener à terme ici à Québec. Également, Mario Bryan, qui est directeur de production du Moulin à Images, qui va venir parler de la face cachée du Moulin à Images, notamment de l'expertise que ça prend, de l'appareillage et des nouveautés. Puis, la sélection musicale sera assurée par Millimétrique, qui cherche à inspirer une ambiance festive. Le tout avec Boucher et du Pied Bleu, vin d'importation, c'est 25$ pour cet événement, ma foi, quand même assez unique là, dans le paysage des arts visuels à Québec. Vendredi, en plus, et c'est vraiment la soirée Méduse, vendredi prochain, parce qu'en plus des nuits numériques qui commencent à 19h, il y a le vernissage de John Raffman et Emmanuel Galland à vue à compter 17h. Le triple vernissage aussi à l'œil de poisson. Puis pourquoi pas, ben rendez-vous au lieu à 19h pour le vernissage de David Nau. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle Saint-Valentin. Je vous remercie. Je remercie Jacques Gignac à la mise en onde. Et je vous laisse en compagnie de Gilles Chaumel et Folk d'Amérique. Bonne soirée.